Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Je ne sais pas, mesdames, messieurs, si cette émission-là va s'inscrire dans la mémoire collective un jour ou l'autre et que les gens parleront de peu contenir des infos comme ayant été une des bonnes émissions de radio qu'ils ont entendues dans leur vie. Mais on travaille fort d'une semaine à l'autre pour vous faire des bons shows. Et l'ami Sébastien Boucher qui est avec moi. Salut Sébastien.
Salut Simon.
Ça va bien?
Ça va vraiment bien. Content de te retrouver.
Ben oui, on a des gros sujets cette semaine. On aura l'occasion, un petit peu plus tard dans le deuxième bloc tout à l'heure, de parler de la saison des impôts qui vient de commencer, ou à peu près. On va parler avec un porte-parole de l'Agence de revenus du Canada. On va répondre à pratiquement toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Tu auras l'occasion plus tard dans l'émission de nous parler d'exercice, c'est vrai, hein?
Ben en fait, oui, pour les gens qui travaillent assis comme moi, comme toi aussi peut-être, hein, il y en a beaucoup, on passe nos journées souvent assis ou devant un ordinateur, eh bien, combien il faudrait faire d'exercices par jour pour compenser ça?
OK, parfait, on va parler de ça dans le troisième bloc. Je vous parlerai dans ce bloc-là également de notre espérance de vie qui, enfin, l'espérance de vie des êtres humains, 100 ans, qui aurait peut-être atteint un pic, là. On pensait qu'à un moment donné, ça arrêterait pas puis ça allait continuer, mais peut-être qu'on est rendu au bout. Je vous raconterai ça. Il y aura un quiz à la fin de l'émission sur les lieux célèbres à travers le monde. Oh, alors, on va faire un peu de géo.
Est-ce que ça sera mon premier quiz que je passe la note de passage?
On va voir ça. J'ai une dizaine de questions à tout et pour tout. Hein? Une dizaine de questions. Ça fait que y a des choix de réponses, donc ça devrait quand même être pas pire.
Oui, ça va m'aider.
Mais tu veux commencer d'abord par nous parler des jaguars, les guépards et les léopards.
Ben oui, cette semaine, je voyais plein d'articles passer là-dessus. Parce qu'on fait pas nécessairement la différence, hein, le jaguar, le léopard puis le guépard. Moi, dans ma tête, c'était quasiment le même animal. Et puis, ben, c'est trois espèces qui sont parfois vraiment confondues. Alors, on va les différencier aujourd'hui. Premièrement, on va commencer par le guépard. Et son nom scientifique, c'est Acinonyx jubatus. Hein, le guépard. Il est souvent connu pour ses performances athlétiques. C'est un super animal. Il peut atteindre 110 km/h, lui, le guépard. Bon, 110 km/h, c'est sûr que ça rattrape un auto. Hein, c'est vraiment rapide. Il a une oreille interne unique, le guépard, adaptée pour courir vite comme ça. Il a aussi un corps mince et lancé, colonne vertébrale très souple, une queue balancée, des longues pattes et des griffes semi-rétractiles. Puis ses poumons sont très, très développés au guépard. Son pelage est couleur sable, on va dire, recouvert de simples taches noires, lui. Facilement reconnaissable grâce à ses deux petites larmes noires aussi, le guépard, autour de son museau. On appelle ça des larmiers. Et un spécimen pèse maximum 60 kilos, le guépard. D'un point de vue comportemental, le guépard, il y a quelques particularités. À l'inverse des autres félins qui chassent la nuit, lui, il chasse de jour. À la vue, à terrain découvert, le guépard. C'est peut-être parce qu'il sait que personne ne peut le fuir.
Ben, 110 km/h, là, si une gazelle est en avant de lui, elle a besoin de courir vite, là.
Oui, c'est ça, là. Tu sais, c'est dur de se sauver d'un guépard. Mais il est très sociable, comme le lion. Les mâles peuvent aussi vivre ensemble comme des fratries. Donc, ça, c'est pour le guépard. On va y aller avec les différences avec le léopard maintenant. Lui, son nom scientifique, c'est le Panthera pardus. C'est celui qu'on appelle aussi la panthère. C'est le léopard qui est la panthère, en fait. Puis, lui a des petites taches brunes cerclées de noir qu'on appelle rosettes. Ses yeux sont plus clairs que celui du guépard. Parce que quand tu regardes deux photos, au départ, ça peut avoir l'air semblable, mais si on connaît les différences, on peut remarquer lequel est lequel. Un spécimen aussi de léopard, il devient plus gros que le guépard. Il peut atteindre 90 kilos. Il est moins haut sur pattes que le guépard, le léopard, mais il est plus gros. Et il rivalise pas avec le guépard à la course. Le léopard, lui, a tout de même un talent. C'est un bon grimpeur. Dans la nature, le léopard, il passe beaucoup de temps dans les arbres. Et il est particulièrement puissant. Il a une grande force. Il permet, il grimpe à verticale en tenant sa nourriture dans sa gueule. Puis il peut, ça ce qui est assez impressionnant, il peut descendre le long d'un tronc d'arbre, mais la tête en bas.
Ah ouais, hein? OK.
Oui, à l'envers, il fait donc léopard super, une agilité remarquable. Et puis, c'est dû en partie à ses chevilles flexibles qui peuvent pivoter à 180 degrés. Alors, ça, okay. C'est le léopard. Et puis finalement, le jaguar. Bon, pour avoir la différence entre les trois, le léopard et le guépard sont présents en Afrique et en Asie, puis seulement en Iran avec une soixantaine d'individus pour le guépard. L'Inde tente une réintroduction présentement, mais c'est assez controversé pour ramener ça sur son territoire en Inde. Mais le jaguar, lui, c'est Panthera onca. Il est présent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, dans les forêts tropicales humides. Il est reconnaissable grâce à ses taches, elles aussi qui sont cerclées de noir, mais qui possèdent en plus des points foncés à l'intérieur. Alors, c'est comme ça qu'on peut différencier le jaguar. Il est solitaire, contrairement au guépard. Et il est le jaguar capable de grimper aux arbres, comme le léopard. Il partage le même genre scientifique Panthera, hein, c'est un peu une panthère. Mais sa particularité tient vraiment à son gabarit, qui est, c'est en fait le plus grand félin d'Amérique. Au niveau mondial, le jaguar est juste derrière les lions et les tigres. Il est donc plus massif que le léopard. Il peut atteindre, lui, 100 kilos. La mâchoire du jaguar, c'est la plus puissante de tous les félidés. Ça rend sa morsure fatale. Et c'est un lien triste qui unit ces trois espèces-là, c'est sûr. Toutes trois sur la liste rouge des espèces menacées présentement. Il y a l'Union internationale pour la conservation de la nature qui voit toute leur population diminuer. Les menaces qui pèsent sur elles sont très nombreuses. Guépards, léopards, jaguars sont très sensibles à la fragmentation et la destruction de leur habitat, mais aussi à les conflits avec les éleveurs. Puis le guépard, lui, de son côté, il souffre des collisions avec les véhicules et du commerce illégal qui se fait, qui en fait un animal de compagnie. Le guépard, on veut l'attraper pour en vendre aux gens. Puis le léopard et le jaguar sont, eux, ciblés pour la chasse aux trophées. Et dernièrement, en dernier lieu, léopard souffre du commerce de sa peau et des os qui sévit surtout en Chine là, présentement. Malheureusement pour les jaguars, ils commencent à être considérés comme un substitut aux autres tigres à des fins de médecine traditionnelle. On sait que ça arrive beaucoup, les Chinois font ça. Hein. Mais c'est ça, médecine traditionnelle par la communauté asiatique qui est croissante d'ailleurs en Amérique latine. Alors ces animaux sont en proie à tous ces problèmes. Mais grande différence quand même entre les trois, même s'ils se ressemblent à première vue.
On va quitter le règne animal. Merci, Sébastien, pour ces comparaisons entre le jaguar, le guépard et le léopard. On pourra désormais les reconnaître quand on sera en face. Enfin, on va courir probablement, mais on va savoir à quoi on a affaire, toujours est-il. Alors, on quitte le règne animal pour s'en aller dans le domaine de l'informatique pendant quelques minutes parce que, d'après toi, est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une solution miracle à tous les maux de l'humanité ou c'est plutôt une catastrophe annoncée, selon toi?
Puis, ben, je trouve que c'est plus solution. Je dirais pas miracle à tous les problèmes, mais je vois ça plus comme une solution qu'une catastrophe. J'ai pas encore embarqué dans la grande peur reliée à ça, parce que peut-être les robots sont pas arrivés en masse pour nous remplacer. Mais on verra bien ta réponse à cela.
Il y a un chercheur britanno-canadien, donc il est à la fois britannique et canadien, on s'entend. Il est spécialisé en intelligence artificielle. On l'appelle même le parrain, en quelque sorte, de l'intelligence artificielle. Il s'appelle Jeffrey Hinton. Il est spécialisé également en psychologie cognitive et il s'intéresse tout particulièrement au réseau de neurones artificiels. Lui, il a sa petite idée sur le sujet, puis ça rejoint peut-être pas la tienne.
Non, il dit que c'est dangereux.
Ben, il a donné une entrevue récemment à BBC Radio 4 et lui, il a partagé donc ses impressions, ses estimations sur les probabilités que l'IA détruise l'humanité. Et selon lui, ça pourrait se faire, enfin, les pourcentages sont assez élevés que ça se fasse dans les trois prochaines décennies.
Hein?
Ouais,
en 30 ans, l'intelligence artificielle nous détruirait.
Ben, lui, il est lauréat du prix Nobel de physique 2024, donc on s'entend que c'est quand même pas n'importe qui, là. Et selon lui, les risques de l'intelligence artificielle, ou en fait, qu'elle entraîne, comme je le disais, la fin de l'humanité d'ici les trois prochaines décennies, ça a grimpé. Jusqu'à récemment, il mettait ça à peu près à 10 %. Là, on est rendu à 20 % de chance, selon lui, que d'ici 30 ans, que l'intelligence artificielle, ça mette fin à l'humanité, pour ainsi dire. Hein, c'est que le problème, mais le problème, selon lui, c'est l'accélération exponentielle des progrès en matière d'intelligence artificielle. Et le problème, c'est que ça dépasse maintenant de beaucoup les prévisions initiales que les experts avaient formulées et ça rend la technologie désormais pratiquement hors de contrôle.
Déjà.
C'est ça. Alors, ce professeur émérite à l'Université de Toronto dit que l'affaire, là, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'être humain se retrouve à gérer des entités qui sont plus intelligentes que lui. Tu as vu ça? Hein, c'est vrai, on s'imaginait que ça viendrait de l'espace, par exemple, des extraterrestres, puis qui viendraient nous, comment dirais-je ça, faire en anglais, des abductions, là, des enlèvements, puis qui allaient nous disséquer, puis tout ça, puis qu'on allait être pris avec des extraterrestres. Mais ironiquement, l'intelligence supérieure à l'être humain, on est en train de nous-mêmes la développer, de travailler avec pour qu'elle nous dépasse. On a toujours été habitués à dominer notre environnement avec nos capacités, évidemment, cognitives qui sont supérieures, hein, même s'il y a des animaux qui sont quand même très, très, comment je dirais ça, très évolués. On pense, par exemple, il y a des espèces de poulpes, là, des pieuvres qui ont une intelligence vraiment très, très incroyable. Mais l'être humain, il dépasse tout là, sur la planète. Et il y a beaucoup d'autres scientifiques, d'ailleurs, qui disent « attention », parce que on a jusqu'ici eu tendance à se dire le domaine de l'intelligence artificielle va s'auto-réguler. Mais c'est ça l'affaire. C'est que ce que lui dit, M. Hinton, c'est qu'il dit, oubliez ça, là, ce domaine-là va pas s'auto-réguler. L'humain va devenir à toute fin utile, c'est ce qu'il a affirmé dans cette entrevue-là, à peu près comme un enfant de 3 ans face à l'intelligence artificielle. Comme un bébé ou comme un enfant qui commence sa vie et dépendant de sa mère, l'être humain va devenir dépendant à toute fin utile de l'intelligence artificielle à un tel point qu'on pourrait, d'ici quelques décennies, connaître la fin de l'humanité. Et M. Hinton, et je vais conclure là-dessus, appelle à une action urgente des gouvernements et dit « ça presse, c'est urgent, réglementer, encadrer le développement de l'intelligence artificielle parce que si vous vous fiez juste à des compagnies comme OpenAI, par exemple, pour s'auto-réguler, vous verrez pas ça, eux autres, ils sont que dans la quête au profit, ils n'auront pas beaucoup de considération pour l'avenir de l'humanité. C'est une opinion quand même qui tranche radicalement avec celle d'autres experts. Je vais finir là-dessus. Yann LeCun, entre autres, qui est scientifique en chef de l'intelligence artificielle chez Meta, et Meta, évidemment, qui sont propriétaires de Facebook et Instagram, lui dit que l'intelligence artificielle pourrait, en réalité, sauver l'humanité de l'extinction. Alors, je sais pas dans quel clan vous campez. Toi, t'as l'air à être de ceux qui croient que l'intelligence artificielle va peut-être pas sauver l'humanité, mais nous aider.
Nous aider à trouver des solutions, à trouver des nouveaux programmes pour remplacer ceux qui existent déjà, à faire toutes sortes de choses. Ouais, je croyais à une avancée certaine.
En tout cas, faudra voir ou faudra pas voir ça, devrais-je dire, mais ça a l'air que les risques de voir la fin de l'humanité à cause de l'intelligence artificielle, ça pourrait venir peut-être plus rapidement qu'on ne l'imagine. Oui. Ça va faire en tout cas un bon sujet de discussion à la table ce soir ou demain matin au déjeuner. Dans un instant, autre sujet de préoccupation pour bien des gens, on parle d'impôts, la saison des impôts bat son plein. On en parle avec un porte-parole de l'Agence de revenus du Canada.
Peut contenir des infos.
Il y a bien des choses hein, qui, dans la vie, sont annonciatrices, pour ainsi dire, du printemps qui s'en vient, ou en tout cas qui est pas très loin, qui est presque à nos portes. Oui, de fait, il y a la marmotte là, qui revient au mois de février, c'est sûr et certain, mais il y a une autre affaire qui revient d'une année à l'autre, et ça, c'est immuable dans le temps ou presque. C'est la saison des impôts, mesdames, messieurs. Je sais que c'est un casse-tête ou enfin c'est bien de la tracasserie pour beaucoup de personnes. Et c'est la raison pour laquelle on le reçoit une autre fois. On l'avait reçu, si je ne me trompe pas, l'an dernier ou l'autre année d'avant, enfin. Il est porte-parole à l'Agence de revenus du Canada et il va répondre à toutes nos questions au sujet de la saison des impôts qui vient tout juste de commencer. Monsieur Charles Drouin est avec nous. Bonjour, Monsieur Drouin.
Bonjour, puis absolument, je vais répondre à toutes vos questions.
Tant mieux, parce qu'on en a pas mal de questions. Hein. C'est une grosse préoccupation pour pas mal de gens, la saison des impôts. Commençons avec la grande question. C'est quoi les principales dates, là, d'abord et avant tout, qu'il faut retenir pour la saison des impôts cette année ou d'une saison à l'autre, grosso modo?
D'abord, on commence, c'est déjà commencé, à partir du 24 février, on peut commencer à soumettre sa déclaration de revenus de façon électronique. Ensuite, il y a une petite différence cette année pour les dons de bienfaisance. On a permis aux gens de soumettre des dons de bienfaisance jusqu'au 28 février de 2025. Ça, c'est en raison de la grève qui a eu lieu à Poste Canada. Donc, il y a des gens qui n'ont pas pu faire leurs dons à ce moment-là, au mois de décembre. Donc, on a donné un sursis pour ça. Ensuite, c'est le 3 mars qui est la prochaine date butoir. Ça, c'est pour la cotisation au REER. Donc, les gens qui voudraient contribuer pour leur retraite ont jusqu'à cette date-là. Normalement, c'est le 28 février, mais c'est un petit peu quelques jours de plus cette année. Ensuite, Le 30 avril, c'est la grande date, c'est celle à laquelle tout le monde, la plupart des individus doivent soumettre leur déclaration de revenus. Absolument très important de soumettre sa déclaration de revenus à temps pour éviter les pénalités ou tout frais d'intérêt qui pourrait s'en suivre si jamais vous devez un montant. Ensuite, pour les gens qui auraient des gains en capital à apporter, on sait cette année, il y a eu des décisions différentes qui ont été faites en lien avec le taux d'inclusion. Donc, étant donné qu'on a fait des changements, tout ça à la dernière minute, on sait qu'il y a des formulaires qui sont pas prêts encore. Donc, on demande aux gens qui auraient des gains en capital à rapporter d'attendre encore quelques semaines. Et puis, ils auront jusqu'au 2 juin. Donc, on va leur donner un sursis du 30 avril, donc jusqu'au 2 juin pour soumettre leur déclaration de revenus. Et finalement, les travailleurs autonomes, 16 juin. Donc, si vous êtes travailleur autonome ou si même si votre conjoint est travailleur autonome, vous avez jusqu'au 16 juin pour faire votre déclaration de revenus. Par contre, si vous devez de l'argent comme travailleur autonome, faut le payer au 30 avril.
Ah, ben merci, M. Drouin. Hey, ben, est-ce qu'il y a cette année des changements dans la fiscalité que les contribuables devraient connaître?
Il n'y a pas énormément de changements pour l'année de la saison des impôts de 2025, donc l'année d'imposition de 2024. Par contre, on sait que la plupart des montants, les exemptions personnelles, ont été augmentées pour justement s'ajuster avec le coût de la vie. Et le plus grand changement que je dirais cette année, c'est qu'on veut vraiment que les gens profitent de nos services numériques. On a travaillé très, très fort dans la dernière année pour améliorer ce qu'on appelait « mon dossier ». On appelle maintenant ça tout simplement le compte, un compte avec l'Agence du revenu du Canada. Vous pouvez maintenant vous enregistrer en quelques minutes. Plus besoin d'attendre pour un code par la poste pendant 2 semaines. Puis mon dossier, on a travaillé l'interface. C'est beaucoup plus facile de naviguer là-dedans. On a maintenant, c'est nouveau, du clavardage sécurisé à l'intérieur de la plateforme. Bon, c'est que les gens par téléphone nous disaient souvent, c'est long les temps d'attente, on attend 45 minutes, une heure. C'est sûr qu'au clavardage, on attend quand même un petit peu, mais au moins, c'est déjà sécurisé. On passe toute l'étape de validation de qui on est et puis on peut poser directement nos questions avec un agent en ligne. Et l'autre chose, c'est vraiment de s'assurer qu'on connaisse sa situation comme contribuable. Parce que souvent, c'est l'erreur qu'on fait. D'une année à l'autre, on fait nos impôts comme l'année d'avant. Donc, c'est de s'instruire un peu, d'aller fouiller un peu pour voir qu'est-ce qui pourrait s'appliquer à nous cette année.
Hey, M. Drouin, est-ce que vous avez des conseils à donner aux contribuables pour s'assurer qu'ils remplissent leur déclaration de revenus correctement et à temps? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit se préparer en amont ou comment on peut justement éviter là, d'être pris, pour ainsi dire, au dépourvu, même si, je le disais tantôt, ça revient d'une année à l'autre?
Ben la première chose, puis je répète encore, c'est d'avoir un compte avec l'agence. Parce que dans ce compte-là, avec ça, on peut pré-remplir notre déclaration de revenus. Bon, on va aller chercher un logiciel homologué qui est certifié, sécurisé. Donc, on va se prémunir d'un logiciel comme ça pour faire ses impôts, à moins d'avoir un comptable. Mais avec pré-remplir mes déclarations, on peut télécharger directement dans notre déclaration de revenus tout ce qui est les feuillets, par exemple la T4, la T3, la T5 pour les revenus d'intérêt, même les T4 AP, des revenus de pension. Donc, tout ça peut se précharger dans notre déclaration, ce qui fait qu'au final, on n'a que quelques questions à répondre pour voir est-ce que notre situation a changé cette année, est-ce que engager des frais pour du travail au bureau, par exemple. Donc, on a juste à cocher quelques petites cases et puis ensuite, on répond à quelques questions. Puis, en même pas une heure, on peut faire une déclaration de revenus très, très facile. Puis, cette année, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont des déclarations de revenus assez simples et modestes, on va inviter directement 2 millions de Canadiens à remplir leur déclaration de revenus par téléphone. C'est ce qu'on appelle déclarer simplement par téléphone. Ces gens-là sont choisis, vont recevoir une lettre, soit par mon dossier, soit par la poste. Et puis, il suffit de composer le numéro de téléphone, de répondre à quelques questions en appuyant sur le 1, sur le 2, puis leur déclaration de revenus pourrait être faite en quelques minutes. C'est en 10 ou 12 minutes, je crois, que ça se fait. Et c'est pas si compliqué qu'on le pense. Oui, il y a beaucoup de différents crédits, de prestations, de déductions, d'exemptions dont il faut s'informer, mais pour faire sa déclaration, il y a même des cliniques d'impôts gratuites dans la plupart des villes et des villages qui sont là avec des bénévoles si vous avez une situation simple et modeste.
Quand vous dites qu'il y a plusieurs déductions là, pour lesquelles il faudrait s'informer, quelles seraient selon vous là, les déductions fiscales qui sont le plus couramment oubliées justement par les contribuables?
parce qu'on a une liste infinie de déductions de crédit, il y en a plus d'une centaine. Mais commençons par regarder pour les familles des personnes à faible revenu rapidement. Donc, on a l'allocation, évidemment, pour les travailleurs. Donc, les gens pourraient demander cette allocation-là. Si vous avez des enfants, évidemment, l'allocation pour les enfants. Ensuite, les gens qui disent, par exemple, OK, j'ai 18 ans, je viens de commencer à travailler, mais je ne paie pas vraiment d'impôts, j'ai pas fait assez de revenus, je fais pas ma déclaration de revenus. C'est pas une bonne idée parce qu'on pourrait avoir accès au crédit pour la TPS et la taxe de vente harmonisée, par exemple. Puis il y a également le crédit pour les gens qui sont un petit peu plus vieux, qui font de la rénovation. Des fois, on veut garder nos parents à la maison, donc on va créer un logement pour nos parents. Donc, si vous faites un logement multigénérationnel, il y a un beau crédit cette année. Donc, c'est 50 000 $ de déduction qu'on peut faire. Donc, si on a adapté sa maison pour ça, on peut réclamer cette déduction-là. Pour les aînés, évidemment, il y a le crédit de l'accessibilité domiciliaire qu'on oublie souvent. Donc, on a installé une petite barre dans la salle de bain pour se tenir, ou le petit ascenseur qu'on voit à la télévision là, pour aller au deuxième étage. Donc, on peut réclamer ces montants-là pour réduire son impôt. Pour les étudiants, il n'y a pas beaucoup de changements cette année. C'est toujours les frais de scolarité, les intérêts sur les prêts étudiants. Par contre, pour les gens qui sont un petit peu plus vieux, qui doivent retourner à l'école pour certains examens, pour obtenir des permis, des certifications, il y a un crédit pour ça également. Donc, il faut regarder là-dedans. Puis les gens qui bougent, donc la mobilité. Donc, pendant la pandémie, plusieurs personnes, plusieurs travailleurs sont allés s'installer plus loin que leur lieu de travail. Se sont trouvés une maison plus en campagne, un chalet un petit peu plus loin. Si vous avez décidé, parce que là, on revient dans les bureaux, que vous êtes rapproché, vous avez déménagé dans la dernière année à plus de 40 km de votre lieu de travail, vous pouvez déduire vos frais de déménagement. Ensuite, évidemment, si vous habitez une région éloignée, si vous êtes déménagé dans une région plus loin, dans le Grand Nord, absolument la déduction pour les résidents des régions éloignées, ça, c'est très, très payant. Pour les gens qui travailleraient encore au bureau, il y a toujours la déduction pour les frais à domicile. Et il y en a encore d'autres, j'en passe d'autres, les crédits pour les personnes handicapées, pas oublier ça. Puis le dernier que je mentionnerais, crédit pour aidants naturels. Souvent, lorsqu'on mentionne celui-là, les gens pensent, ah ben c'est parce que c'est mes parents, ils sont vieux, puis sont à la maison, puis j'en prends soin. Mais ça peut même être, on sait que les jeunes ont beaucoup de difficultés depuis les dernières années avec la COVID. Il y a plusieurs qui ont développé des déficiences au niveau mental. Puis parfois, on s'occupe de ces gens-là à la maison, ils ne peuvent pas travailler. Mais on peut, comme parent, demander le crédit pour aidant naturel également dans des cas comme ça. Donc, c'est simplement de regarder tout ce qui s'offre à nous, puis ensuite de demander sur sa déclaration de revenus, puis on pourrait avoir de beaux retours d'impôts. Parlant de retour d'impôts, plusieurs personnes en ont reçu l'année passée. On a 33 millions de gens qui ont fait leur déclaration de revenus l'an dernier. 19 millions ont reçu un remboursement d'impôts, puis le remboursement était d'une moyenne de plus de 2000 $. Donc, on peut dire à ce moment-là que c'est quand même assez payant de faire ces impôts.
Monsieur Drouin, je sais que l'Agence de revenus du Canada n'aime pas nécessairement les cachettes, les tours de passe-passe, les choses comme ça, mais est-ce qu'il y a quand même des trucs pour, disons, maximiser les crédits, les déductions d'impôts? Est-ce que c'est, par exemple, de faire des dons à certains moments? Est-ce que c'est d'acheter des REER à ce temps-ci de l'année? Ça serait quoi les trucs que vous donneriez aux gens là, pour tirer le maximum qu'ils peuvent tirer, si on veut?
On va commencer par les jeunes, des jeunes qui peut-être ont un peu d'argent de côté, je l'espère, si ça coûte pas trop cher d'aller à l'école, mais quelqu'un qui veut une première maison, il y a vraiment de bonnes stratégies qui s'offrent à nous, c'est-à-dire que on peut mettre de l'argent de côté avec nos REER et ensuite accéder au régime d'ascension de la propriété. Ce qui a changé cette année, c'est que normalement, lorsqu'on achetait une première maison, de nos REER, on pouvait sortir 35 000 $. Maintenant, ce plafond-là est augmenté depuis le mois d'avril dernier, en 2024, c'est maintenant un plafond de 60 000 $. Donc, ça devient avantageux. On met de l'argent dans ses REER pour économiser de l'impôt à payer et ensuite, on le ressort pour l'achat d'une première maison. Il y a aussi le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison. Donc, on met de l'argent de côté, on fait de l'argent, on fait des intérêts, puis ensuite, on peut le sortir sans payer quoi que ce soit pour acheter sa première maison. Pour les autres qui achètent peut-être pas une première maison, il y a également le crédit d'épargne libre d'impôt, tout simplement. Si quelqu'un, encore cette année, il y a un montant de 7 000 $ qu'on peut mettre là-dedans. Donc, si par exemple, vous étiez éligible, il faut avoir 18 ans pour pouvoir placer de l'argent dans un CELI. Donc, si vous aviez accès au CELI depuis son ouverture il y a plusieurs années, vous pourriez mettre jusqu'à plus de 100 000 $ de côté en placement. C'est des placements qui sont libres d'impôts, donc on peut faire des intérêts, puis on paye pas d'argent là-dessus. Donc, c'est quand même payant à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de stratégies au niveau financier. Puis oui, si vous voulez diminuer votre impôt, les REER, c'est toujours une bonne idée de cotiser à ça, pour pouvoir en mettre de côté pour sa retraite ou pour l'achat d'une première maison, par exemple.
Il y a certainement différentes offres, ben des services qui sont offerts pour nous aider à préparer nos déclarations de revenus.
C'est certain qu'on a comme une stratégie à différents niveaux. Donc, la première chose que les gens peuvent faire, c'est s'instruire. Sur le site web de l'agence, il y a énormément, c'est des milliers, des dizaines de milliers de pages avec de l'information. Il faut fouiller un peu pour trouver, mais on a des guides pour plein de choses. Les personnes aînées, par exemple, souvent vont nous dire, « Ouais, mais là, j'ai voyagé de la campagne pour me rendre en ville pour un rendez-vous médical. Je peux-tu réclamer de l'argent? » On a des guides là-dessus, oui. On peut réclamer de l'argent pour voyager dans les villes. Ensuite, c'est certain qu'on a le clavardage dans notre compte de l'agence. Donc, on a des questions auxquelles on n'a pas trouvé les réponses en ligne. On peut clavarder en ligne. Si on n'a pas le compte de l'agence, parce qu'il y a des gens plus âgés qui ont peur de la sécurité pour leurs informations, je peux confirmer qu'on a des systèmes extrêmement robustes à l'agence de revenus. Par contre, les gens qui se sentent pas à l'aise avec ça peuvent quand même nous appeler. C'est sûr que le téléphone, c'est toujours un petit peu plus long. On prend le temps qu'on a besoin pour régler les problèmes avec chaque contribuable qui nous appelle. Par contre, on a fait quelques différences cette année pour pouvoir alléger un petit peu le fardeau auprès de l'attente. On a augmenté nos heures d'opération. Donc, du lundi au vendredi, si les gens veulent nous appeler, c'est de 6h30 jusqu'à 23h le soir. La fin de semaine, c'est un petit peu moins long que ça, mais on a quand même les agents qui sont en attente pour répondre à vos questions. Mais il y a aussi les cliniques d'impôts. À se souvenir que si on a une situation qui est quand même modeste, un revenu modeste, une situation simple, on peut aller visiter ces cliniques-là. Dans la plupart des cas, c'est gratuit. Et puis, ce sont des gens, des bénévoles, mais qui ont été formés par des experts de l'Agence du revenu qui sont très, très connaissants de toutes les différentes déductions, crédits auxquels vous pourriez avoir le droit. Donc, c'est peut-être une bonne idée aussi d'aller faire un petit tour du côté des cliniques.
Monsieur Drouin, le temps file. On arrive à la fin de cette entrevue-là. Rapidement, pour s'informer, adresse de site web, numéro de téléphone peut-être à composer?
Oui, exactement. Donc, pour le site web, c'est facile. C'est canada.ca/impôts au pluriel. Donc, aussi simple que ça. Puis après ça, vous naviguez sur nos pages. Pour le téléphone, si vous devez nous appeler, c'est le 1-800-959-7383 dans tous les endroits partout à travers le pays. Et les heures que j'ai données tantôt, donc de 6h30 le matin jusqu'à 23h, c'est heure locale pour les gens à travers le pays.
Ben merci beaucoup. Il est porte-parole à l'Agence de revenus du Canada, M. Charles Ledrouin. Il ne nous parlait pas de la saison de la chasse, il nous parlait d'une autre saison qui est très importante dans la vie des gens, la saison des impôts. M. Drouin, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Bonne saison.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Troisième portion de Peut contenir des infos. Dans un instant, on va parler des exercices quand on passe notre journée assis au bureau, c'est bien ça?
Oui, la quantité d'exercices qu'il faudrait faire si vous avez un emploi assis là, ou que vos passe-temps font que vous êtes assis la plupart du temps dans une journée, ben, combien il faut en faire d'exercices par jour pour compenser ça et être en bonne santé.
Et l'exercice physique, soit dit en passant, qui est une bonne façon d'augmenter ou d'accroître notre espérance de vie, évidemment.
Absolument.
Hein, t'sais, être en bonne forme physique. Mais là, je vais vous parler justement de l'espérance de vie de l'être humain. Ça a l'air qu'on aurait peut-être atteint un pic. Hein. L'espérance de vie des êtres humains a beaucoup augmenté au cours du 20e siècle, particulièrement chez nous, en Occident, on s'entend. Au début des années 20, là, selon les données de Statistique Canada, on pouvait s'attendre à ce qu'un petit garçon vive à peu près jusqu'à 64,7 ans. Puis une petite fille d'un an, là, on pouvait s'attendre à ce qu'elle atteigne l'âge de 65,3 ans. En 2024, l'espérance de vie moyenne au Canada était de 83,11 ans. C'est incroyable. Mm-hmm. On a gagné en 100 ans, quasiment une vingtaine d'années, c'est bon. Hein? Or, il s'avère, selon une récente étude, qu'on ne connaîtra probablement pas un gain aussi impressionnant au cours du 20e siècle, ou enfin au cours du 21e siècle, qu'on l'a connu au cours du 20e siècle, c'est ce que je voulais dire. C'est une nouvelle étude qui est parue dans la revue scientifique Nature Aging et qui nous apprend qu'on a peut-être atteint l'espérance de vie, le pic de l'espérance de vie humaine, et qu'il n'y a pas beaucoup de gens au cours du prochain siècle, d'ici la fin du 21e siècle, qui vont atteindre l'âge vénérable de 100 ans. Les chercheurs disent pas plus de 15 % des femmes et à peu près 5 % des hommes vont dépasser les 100 ans au cours du 21e siècle. C'est pas beaucoup. Mais on pensait qu'à un moment donné, on voyait aller les progrès de la médecine et tout ça, puis on se disait, on partit comme c'est là, on va vivre jusqu'à 110, 115, 120 ans à un moment donné. Mais non. Puis eux autres, ils n'ont pas fait de simples prédictions. Ils ont vérifié des données hautement scientifiques et se sont penchés, en fait, sur les données scientifiques de 9 des endroits du globe où on vit parmi le plus longtemps à travers la planète. Ils ont évalué les statistiques de 90 à 2019. Ils ont étudié les gens de France, d'Italie, Suisse, Suède, Espagne, Japon. Hey, tu sais, Japon, il y en a des centenaires, il y a qu'un peu au Japon. Hein? Mm-hmm. Australie, Hong Kong et États-Unis. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que oui, l'espérance de vie a augmenté pendant les 3 décennies qui ont été étudiées, donc entre 1990 et 2019, mais ça a pas mal moins progressé qu'au début et au milieu du 20e siècle. Tu sais qu'au 20e siècle, là, à part les 3 décennies qu'on a étudiées, en moyenne, on dit que l'espérance de vie augmentait de 3,6 mois par année, en moyenne, au 20e siècle. Bien, pendant les années qu'ils ont étudiées, on était rendu à, le gain était de 2 mois par année d'espérance de vie. C'est une différence notable, excusez-moi, la moitié de l'espérance de vie. Et selon les chercheurs, au train où ça va, si la tendance continue comme ça, à un moment donné, ça va stagner complètement et on va atteindre une croissance éventuelle de 0 mois de gain sur notre espérance de vie. Donc, ce que ça veut dire, en 2 mots, c'est que le moment s'en vient où la personne qui va naître, par exemple, une année aura une espérance de vie de, on va dire, 83 ou 84 ans et la personne qui va naître l'année suivante n'aura pas davantage d'espérance de vie ou n'aura pas de chance à toute fin utile de vivre beaucoup plus longtemps que cette personne-là, contrairement à nous autres, par exemple, qui sommes nés dans les années 60-70, par exemple, on pouvait espérer vivre beaucoup plus vieux que nos parents qui étaient nés dans les années 40 ou les années 50. Mm-hmm. Mais il viendra un temps où cette espérance de vie ne s'accroîtra plus. Et aujourd'hui, l'espérance de vie dans les pays comme les nôtres, ça signifie tout simplement s'assurer que les gens vivent plus vieux. Hein, c'est à peu près ça. Parce que l'espérance de vie, grosso modo, c'est quoi l'espérance de vie? Comment ça se calcule, selon toi, l'espérance de vie?
Ça prend des paramètres pour calculer ça, pour avoir une bonne idée. J'imagine les taux de maladie qu'il y a dans tel pays, les taux de richesse, de pauvreté aussi, mélangé à tout ça. Il doit y avoir tellement de critères.
C'est simple. Il y a une affaire sur laquelle on s'assoit pour calculer la durée de l'espérance de vie, c'est la mortalité infantile. Moins il y a d'enfants qui meurent dans un jeune âge, plus ils ont de chances de vieillir longtemps. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui a fait que des années 1900, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, on a réduit considérablement la mortalité infantile. Les jeunes survivent à la naissance, vivent de plus en plus vieux, et c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, la façon de prolonger notre espérance de vie, c'est tout simplement de s'organiser pour que les bébés naissent pas ou meurent pas à la naissance, c'est-à-dire qu'ils vivent plus longtemps. Donc là, on a probablement atteint un pic, on est rendu à quoi? 83,7 ou à peu près que j'ai dit tout à l'heure. Ben c'est grosso modo, là, c'est ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que l'espérance de vie pour les êtres humains...
Ça va rester là.
Ça va rester à peu près là. À moins, bien sûr, qu'il y ait une révolution technologique. On s'entend. Hein, si, à un moment donné, ils trouvent un sérum de jeunesse ou ils trouvent une façon de changer toutes les pièces qu'on a à l'intérieur, ben, peut-être que ça va changer la donne, mais pour l'heure, là, oubliez ça. Vos enfants ne vivront pas jusqu'à 110 ou 115 ans. Il y a très, 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 très peu de chances que ça arrive. En tout cas, ils n'ont pas davantage de chances que vous et moi, finalement. C'est ce qu'on apprend.
Oui, puis c'est correct de vieillir, hein, parce que si on vieillissait pas, la jeunesse n'existerait pas. Et c'est tellement beau, la jeunesse, ça nous prend les deux.
Ben, que c'est bien dit. Tu vas nous parler maintenant de quoi, mon cher ami?
D'exercices qu'il faut faire si vous avez des journées passées assises, comme moi. Et puis, je me le demandais, j'en fais un petit peu d'exercice, mais je me suis rendu compte que j'en fais pas assez. Parce que, ben moi, j'ai un emploi à la radio depuis déjà 11 ans, 12e année. Et oui, je passe pas mal de temps assis. Puis, je pense que c'est le cas de beaucoup de travailleurs qui nous écoutent présentement. Il y a beaucoup de gens qui passent leur journée assis. Bravo à ceux qui ont des emplois physiques. C'est parfait. Pas trop de gestes répétitifs, par exemple, c'est là que ça peut devenir un peu dangereux de se blesser, mais avoir des emplois qui nous tiennent actifs, c'est très bien aussi, mais on choisit pas toujours hein, notre carrière, où est-ce qu'on est. Et puis, ben moi, c'est ça, je reste assis pas mal. C'est sûr que quelques petits pas qu'on fait pour aller se faire une toast, un café, aller manger ou pour aller aux toilettes, une journée de travail qui est généralement passée assise. Il y en a que c'est juste parce qu'ils se détendent à la maison aussi, là. Donc, n'importe qui passe la majeure de sa journée assis, pour être en bonne santé, ben il faut à tout prix bouger. Il y a une équipe de chercheurs qui a réussi à trouver une réponse dans le journal spécialisé britannique de médecine sportive. Le résultat qui se base sur une méta-analyse de 9 études précédentes qui comprend un total de 44 370 personnes dans 4 pays différents. Alors, c'est quand même une grande étude. Pour 10 heures passées au repos, ça prend 30 à 40 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par jour. Ça a l'air de rien, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. De l'activité modérée ou comme ça, ça veut dire que moi, il faudrait que je passe un bon 30 à 40 minutes par jour quand je finis de travailler puis je suis fatigué. Là. Je commence tôt le matin puis tout ça, mais vu que je suis assis toute la journée, il faudrait que je trouve le moyen de faire de l'activité puis la marche ne serait pas suffisante. Donc, c'est des études qui viennent contredire un peu des choses qu'on pensait avant. Hein. C'est pour ça que je te dis, c'est plus que ce qu'on croyait. Le fait de pratiquer des activités moyennement intensives, comme par exemple le vélo ou la marche rapide, là, ça peut réduire le risque de décès prématuré. Pardon, j'ai eu un... Puis ça, c'est une pratique sportive qui permet d'atteindre une espérance de vie similaire aux personnes qui ont un mode de vie moins sédentaire. Alors, si on est très assis dans la journée, il faudrait faire du vélo, marche rapide, un bon 30-40 minutes par jour. Et puis, l'exercice physique ou même se tenir debout, c'est sûr que c'est déjà bénéfique, là. Plus le temps consacré à une activité physique modérée ou vigoureuse diminue et plus le risque de décès augmente. Alors, tenez ça pour dit. De façon générale, une durée de sédentarité supérieure à 10,7 heures par jour, si on est assis pendant tout ce temps-là, c'est associé à un risque de mortalité accru. Alors, c'est pas rien. Faut vraiment en tenir compte. Le confinement là, pendant la pandémie, c'est sûr, on se rappellera, ça avait réduit beaucoup les activités physiques des populations. Puis là, il y en a qui ont développé depuis ce temps-là des habitudes, puis ils passent plus d'heures à l'intérieur. On a remarqué là, dans certaines études aussi que les gens, depuis la pandémie, n'ont pas repris leur même niveau d'activité physique qu'il y avait avant. Puis les résultats de l'étude correspondent à peu près aux directives de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande entre 2h30 et 3h de sport d'intensité modérée par semaine ou 1h15 à 2h30 d'activité physique intense chaque semaine aussi. Donc, c'est à peu près ça, sauf que dans l'étude que je viens de te parler, on y va par jour. On y va à 30-40 minutes par jour, mais ça revient sensiblement à la même chose que ce que l'OMS quand même propose. Si on regarde en France, il y a eu des recommandations d'un programme qui s'appelle « Manger, bouger ». Eux, ils recommandaient de pratiquer 30 minutes d'activité physique dynamique au quotidien, puis ça correspond à peu près aussi aux résultats qu'on voyait. Alors, on s'entend qu'il y a comme un consensus, puis privilégier les exercices de renforcement musculaire et de souplesse et répartir la pratique en plusieurs fois par jour, c'est le mieux. Comme par exemple, des tranches de 10 minutes. Pas besoin de faire le 30-40 minutes d'un coup, là. Pour pratiquer des activités physiques à la maison aussi, il y a beaucoup de solutions qui existent. Il y a plein de cours en ligne hein, qui existent pour toutes sortes d'activités physiques. Je ne sais pas si toi, tu as déjà fait ça, un cours en ligne d'un sport, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Simon, il m'a répondu, là, il me faisait signe que non là, pour les gens qui nous écoutent. Mais des étirements, c'est très important. Est-ce que tu t'étires, Simon? Parce que tu travailles beaucoup assis.
Je ne m'étire pas, mais je fais de la marche pas mal, moi, honnêtement.
Beaucoup de marche? Est-ce que tu en fais un peu de la rapide?
Je marche vite. Tu as besoin de t'atteler pour me suivre parce que je marche d'un bon pas. Je prends le transport en commun d'abord. Fait que tous les matins, pour aller prendre le bus, pour aller à la station de bus, je marche un bon 5 minutes de marche rapide. Pour arriver au bureau, c'est la même affaire, l'après-midi. Fait que bref, grosso modo, ça fait à peu près 20 à 25 minutes de marche rapide par jour.
Vraiment pas si mal? Non, ouais, OK. Bon, là, tu devrais... Bon, pour compenser une bonne partie de ton travail assis. Puis c'est sûr que c'est particulièrement important, là, les recommandations pour les personnes de plus de 65 ans, parce que leur perte musculaire est difficilement réversible, rendue à cet âge-là. Mais est-ce que les chercheurs ont souligné aussi les travaux doivent être encore poursuivis pour mieux comprendre les effets de la sédentarité sur l'organisme? On espère maintenant réussir à trouver exactement la limite à partir de laquelle la sédentarité devient excessive. Parce que là, on parlait d'à peu près 10,7 heures par jour, c'est commence à être beaucoup. Mais on va faire d'autres études sur le sujet. Puis à partir de combien de temps l'immobilité, les effets de la sédentarité ne peuvent plus être rééquilibrés par le sport? Alors, on veut savoir si à un moment donné, c'est trop de sédentarité. Alors, d'ici à ce qu'on ait les résultats de ces escaliers, de ces études-là, j'allais dire escalier pour monter des escaliers. Hein, faites ça le plus souvent possible au lieu de prendre l'ascenseur. Faites comme Simon aussi. Utilisez du transport en commun et promenez-vous. Jouez avec des enfants ou les animaux de compagnie, ça compte pour beaucoup aussi. Faites-le, ça va vite. Faire du jardinage, des tâches ménagères, marcher pour se déplacer d'un point à l'autre aussi ou faire du vélo, là, ça reste des réflexes utiles pour rester actif dans une journée. Alors, mettez ça dans votre tête et ne le perdez pas. Il ne faut pas que ça ressorte d'une autre oreille parce que c'est très important.
OK, dans un instant, restez avec nous autres parce qu'on s'attaque au quiz et il sera consacré cette semaine aux lieux célèbres à travers le monde. On va tester les connaissances de Sébastien et on va tester les vôtres en même temps. Restez avec nous.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
On est rendu au moment où on se pose des questions, puis on répond à des questions, puis on se gratte un petit peu le derrière de la tête en se disant « C'est quoi la bonne réponse? » Parce que c'est le quiz, mesdames
le
et messieurs.
Le quiz, est... je suis prêt cette semaine. On va tenter d'avoir un score qui a du bon sens.
OK, on va faire un peu de géographie cette semaine. On va s'attaquer aux lieux célèbres à travers la planète. On commence par une première question et on se transporte du côté de l'Europe. À quel célèbre personnage le château de Bran, qui est classé comme monument historique du côté de la Roumanie, à quel personnage ce château-là est-il associé? Est-ce A, Frankenstein? Est-ce B, Dracula? Est-ce C, la princesse Cendrillon? Ou D, Merlin l'Enchanteur?
Wow! OK, le château de Bran, t'as dit?
Oui, le château de Bran, c'est en Transylvanie, une région de la Roumanie.
Bon, ben c'est clair qu'on va dire Dracula.
Ben là, tiens, je viens de donner un indice. Ben oui, c'est Dracula.
L'indice était bon. Merci pour l'indice. J'avais demandé justement, c'était situé où exactement?
Dans quelle région? J'étais quasiment vendu la mèche.
Mais c'est lui qui aurait essayé Dracula. Donc, mon point était assuré pour cela.
OK. Érigé au 13e siècle, mine de rien, le château de Bran en Transylvanie, région, comme je l'ai dit, de la Roumanie, est couramment surnommé le château de Dracula.
Ben oui.
Parce que dans la mémoire collective, on l'associe à Vlad III l'Empaleur. Vlad III l'Empaleur, c'est lui qu'on appelait aussi Dracula. C'est lui qui a donné son nom à Dracula. Et ironiquement, ce qu'on apprend dans les livres d'histoire, c'est que Vlad III l'Empaleur, qui a donné son nom à Dracula, il aurait probablement jamais séjourné dans le château de Bran. Mais ce château-là, dans la mémoire collective, pour une raison qu'on ignore, là, c'est resté comme... Il faut dire que quand tu le regardes, il est assez majestueux, il a un petit côté un peu lugubre, tu sais, il est comme un peu érigé au sommet d'un cap rocheux. Ça, disons que ça alimente pas mal la mémoire, pas la mémoire collective, mais l'imagination collective.
Ça fait vampire.
Ça fait château pour les vampires, c'est ça. Question numéro 2. Sur quelle île new-yorkaise la statue de la liberté est-elle érigée? Est-ce A, Liberty Island? Est-ce B, Staten Island? Est-ce C, Governor's Island? Ou D, Long Island, selon toi?
J'hésite. Ça, je devrais le savoir, mais je ne le sais pas. La statue elle est pas sur Long Island parce que j'imagine elle est à côté de Long Island, elle est comme un peu tout seul dans son affaire. On va dire Liberty Island.
Deuxième bonne réponse.
Oui.
Ding, 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 ding,
ding. Ah, ben là, je suis content.
Bravo, Liberty Island. Oui,
la statue de la liberté sur l'île de la liberté. Pourquoi?
Ben
pas?
Oui,
pourquoi
sur Liberty pas? Island. Alors, la statue a été offerte, juste en passant comme ça, aux États-Unis par la France. Hein? Elle a été érigée sur Liberty Island. C'est une toute petite île inhabitée d'à peu près 6 hectares qui est évidemment dans la région de New York. Là, pas besoin de vous expliquer où est située la statue de la liberté. Question numéro 3. Le Taj Mahal. C'est quoi ça, le Taj Mahal? Est-ce que c'est A, un palais présidentiel? Est-ce que c'est B, une place boursière? C, un mausolée? Ou D, une prison d'État?
Oh! C'est quoi un mausolée?
Déjà, un mausolée, c'est une espèce de monument funéraire, si on veut.
Ah, ça pourrait être ça. Puis les deux premiers choix, c'était?
Palais présidentiel, une place boursière... C'est un mausolée ou D, une prison d'État?
Ah, je me rappelle plus. Je vais l'essayer, le mausolée.
Un mausolée? Alors, C, Ben, tu sais, t'es parti sur une bonne drive, hein? T'es pas pire, parce que c'est encore une bonne... Ouais, hey, c'est un mausolée.
100% jusqu'à date.
Yes!
Quelle semaine pour
quelle
moi!
Quelle semaine! Il est en feu, mesdames, messieurs. Alors, le Taj Mahal, c'est un mausolée, effectivement, de marbre blanc. C'est situé à Agra, en Inde. Il s'agit d'un monument funéraire qui a été construit par l'empereur moghol Shah Jahan. Et il l'a érigé en mémoire. Bon, il l'a érigé, c'est pas lui, là, on s'entend, là. Il a pas fait ça tout seul, là. Il y avait des ouvriers. Alors, mais il l'a quand même fait ériger, on va dire, en mémoire de sa femme qui est décédée à la naissance de leur 14e enfant.
C'est
il
ça.
Dit, alors, pour rendre hommage à sa femme, il a décidé d'ériger ou de faire ériger le Taj Mahal.
Heureusement que j'ai demandé la définition de mausolée parce que j'aurais pas su que c'est un bâtiment funéraire. Et puis là, quand tu as dit ça, ça m'a sonné des cloches.
Question 4. Et un autre lieu célèbre ou une autre place quand même assez connue. Quelle est la capitale de l'Allemagne, selon toi? Est-ce A, Munich, B, Hambourg, C, Berlin ou D, Cologne?
J'aurais tendance à dire Berlin.
Ben, t'es vraiment bien parti, hein, sérieusement. Quatrième question, quatrième bonne réponse, c'est Berlin. Et Berlin, oui, c'est effectivement la capitale et la plus grande ville de l'Allemagne. C'est un centre culturel et historique important.
Elle l'autre choix bien... que je me demandais, que j'aurais fait peser dans la balance, c'est Munich. Mais est-ce que Munich est bel et bien en Allemagne?
Oui, ben oui, Munich, okay. C'est tout des
villes. C'est celui-là que j'ai hésité, mais heureusement, j'ai dit Berlin. Parfait.
Question 5. Pour quelle raison, essentiellement, la célèbre tour CN de Toronto? Tu as vu la tour CN? As-tu déjà visité la tour CN?
Je ne suis pas allé dedans, non. Je l'ai juste vu en passant en voiture.
OK. La tour CN de Toronto, pourquoi on l'a érigée d'après toi? Et d'après vous, mesdames, messieurs, évidemment, qui nous écoutez. Est-ce A, pour contrôler le trafic aérien dans l'est du pays? Est-ce B, pour s'élever au-dessus des lumières de la ville et en faire un observatoire astronomique? Hein, pour observer les étoiles. Mm-hmm. Est-ce C, pour doter la ville-reine d'un héliport qui serait accessible tout près du centre-ville, ou est-ce D, pour régler des problèmes de télécommunication?
Hey, j'aurais quasiment dit pour faire un restaurant, mais non. la tour du CN, c'est quoi le premier choix que tu avais donné?
Contrôler le trafic aérien.
Contrôler le trafic aérien, peut-être. Dis-les vite, les choix de réponse, j'ai
Alors,
pas le choix.
Trafic aérien, est-ce que c'est pour faire une espèce d'observatoire des étoiles? Est-ce que c'était pour avoir un héliport qui serait facilement accessible près du centre-ville? Ou est-ce que c'était pour régler des problèmes de télécommunication?
Je vais faire essayer, j'aimerais ça avoir tout bon. On va essayer pour régler des problèmes de télécommunication.
Ben, c'est une bonne réponse! Oui, bravo! Vrai. J'aurais dû te mettre un... J'ai-tu un bruit d'applaudissement? J'en aurais mis un, mais que je voulais ça faire.
Merveilleux, pas d'erreur à date. Ben, et puis oui, j'hésitais avec la première là, d'avoir pour régler le trafic aérien.
Ouais.
Mais fin non, c'était.
Fin des années 60, début des années 70, les gratte-ciels poussent tellement à Toronto qu'on commence à avoir des problèmes de télécommunication à cette époque-là. Les ondes des radios puis des communications, soit des CB, des choses comme ça, ça passe de plus en plus mal. Et puis là, le CN commence à se poser des questions. Comment on va faire pour continuer de faire les télécommunications? Alors, ça nous prend une plateforme idéalement située, centre-ville de Toronto, où on pourrait justement transmettre les signaux de télécommunication au-delà des structures de béton que sont, comme je le disais tantôt, les gratte-ciels qui commencent à pousser beaucoup à ce moment-là. Et c'est là qu'on a entrepris la construction de la tour CN en 1973, justement pour régler des problèmes de télécommunication.
Et heureusement que tu me donnes des choix de réponse, par contre. Hein?
Parce OK. Question 6, on se transporte en Australie. L'Opéra de Sydney, qui a été inauguré en 1973, figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est une question vraie ou faux, selon toi. L'Opéra de Sydney, est-ce qu'elle est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO?
L'Opéra de Sydney.
Ouais.
Fou là là. Je vais dire vrai.
Vrai, ben oui, c'est vrai. Oui, absolument. Hey, t'es vraiment parfait sur une belle ligne.
Hey, je suis vraiment parfait jusqu'à date, mais c'est chanceux.
28 juin 2007, l'Opéra de Sydney était consacré comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture exceptionnelle. Cette espèce de grand, pas un monument, mais bâtiment en forme de coquille, là, si on veut. Mm-hmm. Tu as déjà vu l'Opéra de Sydney sur le bord des installations portuaires. On reconnaissait ainsi son ingénierie structurelle et sa technique de construction hors du commun. Question 7. Fleuve Saint-Laurent. Tu connais le fleuve Saint-Laurent, bien sûr. Hein, c'est quand même un des grands fleuves à travers le monde. On le considère comme typiquement canadien, mais est-ce qu'il coule aux États-Unis, le fleuve Saint-Laurent, selon toi?
Non. Pas le fleuve en tant que tel, je sais pas, parce que, il se rend à Montréal, puis là, il s'en va aux États-Unis, c'est le même fleuve.
Ouais,
ah, c'était-tu une question du quiz, là? Je pensais que tu faisais juste discuter, là.
Ben oui, le fleuve Saint-Laurent, selon toi. Est-ce qu'on considère le fleuve Saint-Laurent comme typiquement canadien, mais il coule aussi aux États-Unis, oui ou non?
Je vais dire oui,
parce que je viens de te donner la réponse. Hein? Alors, oui, le fleuve Saint-Laurent coule aux États-Unis, c'est bien vrai. Sur pratiquement toute sa partie ontarienne, en fait, jusqu'à la frontière avec le Québec environ, des grands lacs jusqu'au Québec ou à peu près, effectivement, le fleuve
est canadien. Il s'appelle encore le fleuve Saint-Laurent?
C'est le fleuve, le St. Lawrence River. Et puis, c'est le fleuve Saint-Laurent quand il coule du côté du Québec, mais il y a une petite partie.
OK, il devient une rivière quand il...
Ben, « river », c'est la traduction anglaise de « fleuve ». Rivière. Et de rivière aussi, mais « St. Lawrence River ». Et puis, la frontière qui sépare l'Ontario et l'État de New York aux États-Unis, c'est le fleuve Saint-Laurent.
Okay.
C'est le fleuve Saint-Laurent qui est effectivement la frontière, qui marque la frontière entre l'Ontario et les États-Unis dans l'État de New York. C'est le fleuve Saint-Laurent donc qui fait cette frontière-là.
Bon, on me la donne pas, celle-là. Parce que moi, j'aurais dit, changer de nom, c'est pas le fleuve, c'est une rivière aux États-Unis.
On va faire comme toi, on va te donner un demi-point. Question 8. Sérieusement abîmée par un violent incendie en 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été rouverte au public en décembre 2024, après d'importants travaux de restauration et de reconstruction. En quel siècle sa construction originale avait-elle débuté? A, au 10e siècle. B, au 12e siècle. C, 15e siècle ou D, au 16e siècle? 10, 12, 15 ou 16?
Je vais dire 15.
Et non, malheureusement, non. C'est au 12e siècle.
12e siècle, si vieux que ça, ouais.
Ouais, ça a commencé en 1163 sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully. Et à partir du 12e siècle, comme on le disait, et ça s'est tiré jusqu'au milieu du 14e siècle sur une période d'environ 2 siècles de temps. Question 9, on revient aux capitales. Quelle est celle du Japon? Quelle est la capitale du Japon? Est-ce que c'est A, Kyoto, B, Osaka, C, Tokyo ou D, Hiroshima?
On va y aller avec celle que je connais, Tokyo.
Eh bien, c'est une bonne réponse. On revient dans la course. 14 millions d'habitants, Tokyo est la capitale et la plus grande ville du Japon. Grand centre économique, évidemment, culturel et technologique majeur. Et nous reste une trentaine de secondes avec la 10e question. Dans quel État américain le Grand Canyon est-il situé? Est-ce le Nevada? Est-ce B, l'Arizona? Le Wyoming ou D, le Dakota du Sud?
C'est dans le même coin, tout ça. Est-ce que c'est l'Arizona ou le... T'avais dit lequel à part Arizona?
Nevada
ou Arizona, qui ça pourrait être ailleurs.
Nevada,
je vais dire l'Arizona.
Une bonne réponse, tu finis bien.
Oh, 85%!
Ouais, c'est bon. Alors, l'Arizona, c'est le Grand Canyon est situé dans cet État américain. Il s'agit d'une formation naturelle constituée de couches de roches rouges qui révèlent des millions d'années d'histoire géologique en coupe transversale. Grand Canyon qui s'étend, soit dit en passant, sur 446 km de longueur, profondeur moyenne de 1600 mètres. Bravo! Bravo, Sébastien! 85%!
J'ai été très chanceux, mais il y a excellent score. Choses qui m'ont servi.
Semaine prochaine, c'est toi qui vas essayer de me pogner avec ton quiz.
Alors, je t'en prépare tout un, Simon. On va essayer de trouver un sujet fort intéressant aussi qui pourra nous instruire par le fait même.
En même temps. Alors, conclusion de l'émission peut contenir des infos. Merci d'avoir été là. J'espère que vous l'avez
apprécié.
On souhaite une bonne semaine et on se retrouve un autre tantôt la semaine prochaine.